Bonjour.
Heureux de vous retrouver pour cette dernière émission consacrée au jeu.
Oui, heureux et à la fois un peu triste.
Ouais.
Bon, allez. La dernière fois, nous avions évoqué avec vous l'existence des bars et des restaurants en jeu qui mettaient en avant le lien social et l'intergénérationnel.
Et maintenant, il est temps de vous présenter un dernier lieu que l'on a évoqué un peu tout au long de ces émissions sans jamais vraiment s'y attarder. Un lieu qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'il correspond à notre futur métier.
La ludothèque.
Oui, la ludothèque. Étymologiquement, c'est un mélange qui vient du latin ludus,
traduit par le jeu,
et du grec ancien teke,
traduit par dépôt, donc au total dépôt de jeu. C'est chouette que l'origine du nom soit un mélange de deux civilisations, car la ludothèque prône elle-même le mélange l'interculturel et l'intergénérationnel.
Oui, à l'origine, on l'a vu, la ludothèque était à la fois un lieu où des familles mutualisaient les jouets entre elles. Cela permettait d'économiser l'achat de ces jouets, qui sont parfois, et très souvent même, assez éphémères dans le parcours ludique de l'enfant.
Et ça permettait aussi de transmettre des valeurs de partage. Ça apprenait aux enfants à sortir du matérialisme prôné par notre société. Quoi de plus ridicule, en effet, que d'acheter une boîte de Playmobil dont votre enfant va se lasser au bout de 3 semaines.
Hashtag génération zapping,
hashtag.
C'était donc un lieu d'échange d'objets, mais pas que. On y échangeait aussi entre familles et enfants, et on considérait ce lieu comme un lieu d'éducation populaire.
Ouais, car n'oublions pas qu'à l'époque, il s'agissait d'initiatives citoyennes et bénévoles.
Mm-hmm.
Les ludothèques étaient situées dans des garages ou des locaux mis au service des familles. Rien de professionnel là-dedans, si ce n'est une vraie volonté de faire bouger les choses en proposant une autre façon de voir le jeu.
Moins scolaire, c'est ce qu'on appelle le jeu libre. On laisse l'enfant décider de ce qu'il veut faire. L'arrivée de la psychologie de l'enfant et de l'importance du jeu dans son développement psychomoteur et cognitif, donc dans sa tête, vont professionnaliser le métier petit à petit.
Oui, et on commence à penser les ludothèques de manière professionnelle également. L'agencement du lieu ludothèque est constitué de manière à répondre aux différents types de jeux de l'enfant.
Et pour vous aider à mieux comprendre comment se répartissent ces lieux et quelles sont leurs fonctions, on va vous demander de fermer les yeux.
Fermez les yeux et imaginez une salle. Elle peut être grande ou petite. Quoi qu'il en soit, on va y retrouver quatre espaces plus ou moins distincts. Il s'agit du cadre ludique de la ludothèque. Ces espaces sont basés sur un système appelé ESAR, qui s'appuie lui-même sur les travaux de recherche de Jean Piaget.
Et ce Jean Piaget, c'est un biologiste psychologue suisse qui a travaillé sur les grandes étapes du développement par paliers que l'enfant franchit progressivement. Son jeu s'enrichit au fur et à mesure qu'il développe de nouvelles compétences.
Mais revenons sur l'acronyme ESAR. Quatre lettres pour quatre espaces de jeu. Le E pour exercice. C'est un espace de découverte sensorielle, d'expérimentation et de tentative pour le tout petit. Il est divisé lui-même en deux parties.
Oui.
D'un côté, les jouets sensoriels et les jouets de manipulation, et de l'autre, les jouets de motricité.
D'accord, maintenant on passe au S pour symbolique. Il s'agit d'un espace de jeu de rôle.
Et rien à voir avec les adultes qui lancent des D20 et lancent des sorts ou affrontent des gobelins. Hein.
Très bonne blague Thomas, mais non, ça n'a rien à voir effectivement. Ici on est plus sur du déguisement de l'enfant, il fait semblant, se met dans la peau d'un personnage et il exerce de nombreuses compétences d'imagination et de socialisation.
Mais je t'ai interrompu dans ton explication. Tu en étais à jeu de rôle, un des espaces du jeu symbolique, et il en existe un autre je crois.
Oui Thomas, le jeu de mise en scène. La différence avec le premier type de jeu, c'est que l'enfant est le metteur en scène de son histoire et qu'il projette sur des objets ou des personnages.
Les jouets Playmobil, par exemple.
C'est ça, les jouets Playmobil, mais aussi les poupées, les voitures, et tant de jouets que l'on retrouve dans cet espace de la ludothèque.
Donc après le E, après le S, je voudrais le A. Yes, comme assemblage. C'est un espace où l'enfant va exercer sa pensée logico-mathématique et va donc réunir, combiner, construire ou agencer des éléments pour former un tout dans un but précis ou pas.
Les Kaplas par exemple, j'adorais ce jeu quand j'étais gamin.
Ouais, les Kaplas, mais aussi les Smart Max, les Lego, les Clipo pour les enfants ou les Kenex. Bref, encore plein de jouets à retrouver dans l'espace de la ludothèque.
Et pour finir avec tout ça, il y a le R comme jeu de règles. C'est le type de jeu dont on vous a déjà parlé
largement.
Que vous connaissez tous. Hein, la plupart des jeux des ludothèques s'adressent aux familles, mais on peut également y trouver des jeux plus experts.
Oui, comme le Monopoly ou le Cluedo.
Pas mal Thomas, je ne suis pas sûr que tu aies bien écouté les deux autres émissions.
J'avoue.
Je te conseille de te diriger vers le podcast de la radio et de prendre des notes.
Je le ferai Maxime, promis. Maintenant qu'on a précisé le cadre ludique et l'intérêt qu'on avait à penser ce cadre de manière professionnelle, je te propose d'aborder le métier de la personne qui travaille dans ce lieu et qu'on appelle un ludothécaire. Mais quel est cet être étrange? Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer Yannick Battista, que vous avez déjà entendu dans les précédentes émissions et qui parle de son métier au regard du jeu de société.
Vous savez, celui qui a explosé dans les dernières années. Yannick, c'est à toi.
Bah, plein de missions de bibliothécaire, l'accueil des gens, le traitement des jeux, on appelle ça enregistrement ou équipement, enfin pour que le jeu soit en état d'être prêté, faire en sorte que le jeu reste en état d'être prêté même après avoir été prêté plein de fois par plein de gens, s'assurer que le contenu soit bon, tout ça. Il y a une grande part de conseils aussi, de conseils de jeux, parce que on compte à peu près 1000 jeux qui sortent par an, sans même compter les jouets, et du coup, le commun des mortels s'y retrouve difficilement. Et une des missions des bibliothécaires, justement, c'est d'essayer de les conseiller. On n'a pas une mission de sauvegarde du patrimoine. On l'a en filigrane, en gros, quand on essaie de garder des bons jeux pour grosso modo notre public qui va être familial. On œuvre vraiment sur cette idée de culture ludique, voilà, on peut dire ça, une culture ludique, donc c'est quelque chose qui s'apprend, qui se transmet des parents aux enfants. Et nous, on est là en gros pour favoriser, pour aider, pour insuffler ça. On est là pour aider les parents qui sont des fois parfois, enfin qui sont démunis, quoi, les parents qui ont, je sais pas moi, 20, 25, 30, 35, des fois 40 ans, et qui ont des jeunes enfants, qui ont des enfants plus grands, et qui sont à la recherche justement de jeux pour jouer avec leurs enfants. Le rôle du ludothécaire, c'est de faire en sorte de se tenir au courant de tout ça, et de le proposer au public, et de savoir, de faire une distinction entre le bon jeu et le mauvais jeu, entre guillemets, et le jeu qui va être intéressant pour notre public, et le jeu qui sera pas forcément intéressant. Ce serait un peu présomptueux de savoir, mais en même temps, notre public, c'est aussi des gens qu'on conseille, des gens avec qui on discute, des gens avec qui on joue aussi des fois. Et du coup, on les connaît et on connaît aussi les jeux. Et donc, de façon peut-être un peu présomptueuse, on a une idée de ce qui peut être intéressant. De toute façon, que ce soit présomptueux ou pas, c'est nécessaire et c'est à faire. De la même façon que dans une bibliothèque, les bibliothécaires ne peuvent pas acheter tous les livres, ne peuvent pas lire tous les livres. Et donc, ils ou elles sont obligés de faire des choix, de se dire ça, je vais le prendre parce qu'effectivement, ça va intéresser mon public. Et ça, c'est peut-être très bien, mais ça ne va pas, ça sera pas intéressant. De la même façon, nous, on est obligé de faire ça. C'est développer un peu la culture ludique de notre public et leur permettre d'accéder à des choses, à des jeux en fait auxquels ils n'auraient pas forcément joué.
Et précisons tout de même que le rôle du ludothécaire est aussi de se préoccuper des autres types de jeux que nous avons évoqués précédemment dans le but de l'émission. Même si l'endroit où l'intervention du ludothécaire est la plus visible est l'espace de jeu de règles, car il transmet les règles, oriente les choix de jeu.
Ouais, son action au préalable sur les autres espaces n'est pas à négliger. C'est lui qui sélectionne, il choisit, il met en place les différents espaces. Il réfléchit en amont à la logique de son agencement et surtout, il doit le maintenir dans un état favorisant le jeu.
En clair, il passe son temps à ranger les ouragans laissés par les jeunes joueurs.
Oui, et ça n'est pas aussi pratique que de fermer une boîte de jeux de société. C'est vite rangé un jeu de société.
Ouais, et toujours est-il que le métier est très varié dans sa pratique et selon les affinités de chacun.
En fonction de son public, on s'orientera donc vers plus tel ou tel type de jeu. On mettra en avant un espace plutôt qu'un autre.
Le métier est donc très riche, même s'il a une base commune qui permet de clairement identifier les actes techniques du ludothécaire.
Ouais, c'est ce dont nous a parlé Yannick Battista quand il détaillait tout le travail autour d'un jeu de société, de son enregistrement à sa vérification lorsqu'il a été emprunté.
Et on appelle ça dans notre métier de la ludothéconomie.
Ouais, on fait les malins avec nos titres savants, nos histoires de Piaget et de développement de l'enfant, mais il y a encore peu de temps, on ignorait tout de ces sujets. C'est pourquoi il existe des formations pour préparer à ce métier. Les cours y sont très variés et permettent d'appréhender le métier sous plein d'angles différents.
On est donc allé interroger Stéphanie Ruby, la coordinatrice du projet de formation au sein de l'IUT Carrière Sociale de Bordeaux-Montaigne, et elle va donc nous expliquer en quoi consiste cette formation. Avis aux amateurs!
Bonjour, donc en effet je suis la responsable pédagogique du DUGAL et de la licence professionnelle médiation par le jeu et gestion de ludothèque, le DUGAL étant le diplôme universitaire de gestion et d'animation de ludothèque. Ce sont deux filières qui sont ouvertes à la formation continue, donc pour des personnes qui sont en poste, salariées, ou des personnes qui sont en reconversion ou qui sont demandeurs d'emploi. Et ces deux filières se déroulent de septembre à juin pour le Dugal et de septembre à septembre pour les étudiants et les stagiaires qui seront dans la licence professionnelle. C'est un diplôme, ce sont deux diplômes qui s'appuient énormément sur un réseau professionnel qui est partenaire de ces filières. Ce sont des ludothécaires, des spécialistes du jeu ou du jouet à un niveau régional, national, mais aussi international. On a des collègues qui viennent de Belgique ou du Québec et il y a aussi une équipe d'enseignants chercheurs de l'IUT, puisque ces deux filières sont insérées à l'IUT Bordeaux-Montaigne dans le département carrière sociale. Alors, je tiens à dire aussi qu'il y a un appui et un partenariat fort avec le réseau régional et les, par exemple, la trentaine de ludothèques en Gironde. Mais il y a aussi un partenariat important avec l'association des ludothèques françaises de la région Nouvelle-Aquitaine ou des régions proches ou même au niveau du réseau national. Les objectifs un petit peu de ces formations, on vise la professionnalisation d'experts, est-ce jeu et jouer, du point de vue de la mise en jeu et du donner à jouer à divers publics. Ce sont donc des stagiaires ou des étudiants qui vont apprendre à donner à jouer, à favoriser le jeu de tous les publics, et particulièrement, mais pas exclusivement, en ludothèque. Pour ce faire, il va y avoir, par exemple, des enseignements et des apports sur les modalités d'aménagement d'un lieu, la constitution et la gestion d'un fonds de jeu, par exemple, la sélection de collections de jeux et de jouets et leur mise en scène, comment on va les disposer, comment on va les mettre en avant par rapport aux différents publics qui vont venir dans les structures, les équipements de ludothèque ou dans d'autres lieux. Il va y avoir aussi des contenus sur la ludothéconomie ou la connaissance des divers publics qui vont, on va dire, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées ou la connaissance aussi d'institutions plurielles. Par exemple, on peut travailler avec les publics de l'éducation nationale, mais on peut aussi travailler avec d'autres publics d'institutions socio-éducatives ou avec des travailleurs sociaux, ou parfois aussi avec des établissements pénitentiaires. Au cours de ces formations, on aborde des savoir-faire et des savoir-être qui sont particulièrement travaillés tout au long de l'année de formation. Par exemple, il y a des temps sur la transmission de la règle, il y a des temps sur l'histoire du jeu ou des jouets, il y a des temps sur les identités professionnelles et sur la professionnalisation des ludothèques, des temps sur la parentalité, sur les méthodes de classification ESAR, par exemple, que la collègue québécoise vient présenter, ce système de classification. Mais il y a aussi la maîtrise de techniques et d'outils professionnels, comme par exemple les postures professionnelles d'observation, les techniques d'entretien et l'analyse réflexive de ces pratiques ou de ces gestes professionnels. Les 10 semaines de formation ou les 17 semaines de formation sont marquées aussi par des temps forts. C'est par exemple des soirées jeux dans les ludothèques de la région qui émaillent les 10 semaines de septembre à juin. C'est aussi la réalisation d'une journée thématique professionnelle qui fédère les ludothèques, les ludothécaires de la région, les étudiants des promotions précédentes et les différents partenaires et intervenants. C'est un événement qui est intense, très intense même. Il y a aussi des projets tutorés pour les stagiaires de la licence professionnelle et il y a des semaines thématiques où l'on va approfondir certains aspects qui sont plus en lien avec les fonctions de direction ou de co-direction d'équipement. Il y a aussi 10 à 15 semaines de stage, en fonction de la filière dans laquelle on est, qui sont l'occasion de découvrir et de faire des stages de réalisation, hein, pas des stages d'observation, dans des ludothèques ou des équipements qui vont mobiliser le jeu comme un média. Pour nous, pour ces deux filières-là, pour les formations dispensées à l'IUT Bordeaux-Montaigne, le jeu et le donner à jouer sont abordés dans ses fonctions sociales, dans ses fonctions culturelles, dans ses fonctions anthropologiques, mais aussi dans ses fonctions politiques. Le média-jeu est aussi travaillé dans ces déclinaisons qui peuvent être plurielles. Par exemple, on va aborder aussi le jeu vidéo, le jeu et le livre, la création ou l'édition de jeux, le jeu de rôle, les jeux de figurines, etc. etc. Donc, ça fait une formation, des formations qui sont très denses, très complètes et tout à fait passionnantes, avec des groupes d'étudiants passionnés et passionnants. Merci, merci.
Bon, bah, maintenant, on a une bonne vision de tout ce qui entoure la ludothèque, Maxime.
Et on a tenté pendant 3 émissions de vous faire vivre cette passion. Le jeu de règles, bien sûr, mais pas que, car permettre à l'enfant de bénéficier d'un lieu de jeu libre est également très important. Primordial même, car l'adulte, on l'a vu, a de nombreux lieux où il peut jouer aussi.
D'ailleurs, ces lieux sont parfois fréquentés par des ludothécaires venus tester les jeux afin de savoir s'ils franchiront le cap de l'achat pour leur ludothèque ou pas.
Donc les gérants de ces lieux connaissent bien les ludothécaires et on s'est dit que ce serait sympa d'aller leur demander de nous parler de la perception qu'ils ont de notre métier.
Évidemment, et on était face à eux donc ils nous ont dit que du bien, hein. Mais on ne met pas en doute leur sincérité et on trouve ça tellement beau qu'on vous les fait écouter. Pour commencer, voici Nicolas Soubiès de la Muse Café.
Pour moi, la ludothèque, c'est un outil socioculturel dédié à une population sur un territoire, que ce soit un quartier, que ce soit une ville. Que ce soit une métropole ou même plusieurs villes qui seraient payées une ludothèque à plusieurs. L'idée, c'est quand même que le projet ludothèque, pour moi, c'est un projet socioculturel à part entière qui va aller vers une population enfant, mais aussi adolescent, pourquoi pas adulte et famille, pour redonner du sens et de la cohésion familiale, de la cohésion sur le territoire. Et cela grâce à notre activité de jeu. Pour moi, le projet ludothèque, c'est aussi de redonner un peu de justice aussi et de faire en sorte que certains enfants qui n'auraient pas l'habitude de jouer à la maison parce que papa et maman n'ont pas le temps ou papa et maman n'ont pas appris à jouer non plus, parce que je pense que c'est un apprentissage, le jeu. C'est un apprentissage fondamental qu'on oublie. Souvent au détriment du travail, on dit ben moi je deviens sérieux, je dois plus jouer, etc., etc. C'était un peu le modèle d'avant, ça. Et aujourd'hui, on a peut-être plus de parents qui commencent à dire ben moi je vais jouer aussi avec mon enfant et je vais aussi choisir des jeux de qualité. Pour moi, l'essentiel, il est dans l'approche du public. Qu'est-ce qu'on fait avec ce public? Qu'est-ce qu'on fait sur le territoire? Et quel est le projet politique de ces structures-là?
Et pour finir, on écoute Rodolphe Chambonneau du restaurant-jeu Food and the Game.
Les ludothécaires, ils ont vraiment un exercice qui n'est pas facile parce que, on en parlait en off à l'instant, le public des ludothèques, bon, dans certaines villes, il y a des ados parce que bassin de population s'y prête. Dans d'autres villes, il y a des enfants, mais c'est rare. Je dis ça de loin, hein. J'ai pas été ludothécaire moi-même, à part via le restaurant, mais c'est d'autres enjeux. Il n'y a pas beaucoup, j'imagine, de joueurs adultes qui vont à ludothèque. Après, la place de ludothèque, je pense qu'elles ont un rôle qui est extrêmement important. D'abord parce que, bon, alors il y a le côté de prendre en charge des enfants, ce qui n'est pas la moindre de leur qualité et de leur courage, parce que c'est pas un public qui est toujours très très simple à gérer. Et puis, ils ont un rôle qui est central. Je sais que, par exemple, moi, avant d'ouvrir le restaurant, j'avais tendance à essayer de convertir un maximum de gens à ce beau hobby. Et j'ai pas mal de copains qui ont creusé leur connaissance du genre en allant récupérer des jeux, en les empruntant en ludothèque pour jouer en famille chez eux, etc. Donc ils ont un rôle qui est extrêmement important parce que finalement, ils sont un peu au jeu ce que les bibliothèques sont au livre. On paye un abonnement et on va emprunter des jeux. Et donc on va accroître sa connaissance de ce domaine-là, on va satisfaire sa gourmandise, sa curiosité, etc. Donc ils ont un rôle qui est vraiment fondamental. Mais ils ont un rôle qui est déterminant. Je suis sûr qu'énormément de gens sont venus au jeu grâce aux ludothèques, aux facilités qu'elles procurent, à leur modèle économique qui est quand même un peu plus vertueux. C'est une profession qui exige beaucoup d'abnégation et beaucoup de passion, parce que je pense qu'on ne peut pas transmettre une passion sans l'avoir soi-même. Or, un ludothécaire qui me dirait qu'il n'aime pas les jeux, je dirais, mon gars, change de métier, hein. Va faire de la charcuterie ou n'importe quoi qui t'intéresse, mais pas ludothèque. Parce que quand on parle d'un hobby culturel, si on en parle en n'aimant pas profondément ce qu'on fait, c'est même pas la peine d'essayer. On est tous conscients qu'on a un rôle à jouer dans les fameux 10 ans à venir qu'on évoquait tout à l'heure. Les 10 ans à venir pour notre société, et qu'on a entre les mains un loisir qui est remarquable à plus d'un titre, et qu'on est tous présents à des échelles différentes dans la propagation de ce virus-là, et le ludothécaire occupe une place extrêmement importante dans cette logique-là.
Waouh! Eh bien, si après ça, on n'a pas envie de faire ce métier,
c'est clair.
Sachez qu'il y a beaucoup de profils différents qui font cette formation. Maxime et moi sommes issus de cette diversité. Maxime a 20 ans et poursuit ses études dans l'animation en se spécialisant autour du jeu. Quant à moi, j'en ai 40 et je reprends mes études après 17 ans d'interruption et une première vie professionnelle qui ne me satisfaisait plus car elle n'avait plus de sens.
Et ce métier a du sens.
Oui, c'est sa force.
Thomas, je crois qu'il nous reste une dernière pastille.
Et carrément, un jeu coopératif et familial, car on était dans le thème des ludothèques aujourd'hui, donc je vais vous parler de la chasse aux monstres. Un jeu basé sur le principe du memory, avec une thématique très intéressante. En gros, tous les joueurs vont unir leurs forces pour enfermer les monstres dans un placard, avant que ceux-ci n'encerclent le lit.
N'encercle le lit, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que 4 cartes monstres soient positionnées aux 4 côtés d'un lit, qui apparaît sur l'envers de la pile des cartes monstres. Sur l'endroit de chaque carte monstre apparaît le dessin d'un jouet particulier. C'est le jouet qui fait fuir le monstre en question et le renvoie au placard. Tout autour du lit, on a disposé des tuiles en carton face cachée. Sur chacune de ces tuiles est représenté un jouet. Les tuiles sont éparpillées autour du lit, symbolisant les jouets.
Qui, comme dans toute bonne chambre d'enfant, ne sont pas rangés.
Ouais, y a de ça. À son tour de jeu, un joueur tire une carte monstre et tente de trouver dans sa chambre la tuile jouée qui l'a fait fuir. S'il y arrive, le monstre est renvoyé au placard. On remet la tuile jouée sur sa face cachée, car on pourra la réutiliser plus tard pour faire fuir un autre monstre ayant la même phobie, et on dit tous « Au placard le monstre !»
Au placard le monstre !
S'il n'y arrive pas, on retourne une tuile spéciale représentant la progression des monstres dans la chambre. Quand 3 tuiles de progression de monstres sont retournées, on positionne une carte monstre définitivement sur un côté du lit. Et quand 4 cartes monstres encerclent le lit, tous les joueurs ont perdu.
D'accord.
Si tous les monstres sont renvoyés au placard grâce à la bonne utilisation des jouets, alors les joueurs ont gagné la partie et peuvent s'endormir tranquillement.
Un petit principe de memory vraiment sympa en fait.
Oui, oui, car ce jeu a plusieurs avantages pour un jeu en famille. D'abord, on l'a vu, c'est un principe de memory. Et c'est un des mécanismes de jeu dans lequel les enfants excellent. Ainsi, c'est souvent eux qui retourneront les bons jouets et c'est l'adulte qui risquera de se tromper.
Et c'est une bonne chose que de mettre votre enfant en valeur dans un jeu.
Oui, Maxime. Et ensuite, c'est un jeu coopératif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement entre parents et enfants avec la gestion parfois complexe de la défaite. Ici, les parents jouent avec leurs enfants contre le jeu.
D'accord.
Soit c'est une défaite collective, soit c'est une victoire collective.
Et puis le thème est franchement intéressant.
Oui, ça c'est la deuxième particularité. Le jeu traite d'un sujet majeur dans les phobies des enfants, la peur du monstre sous le lit. Mmh. Le fait de renvoyer les monstres au placard à l'aide de jouets, en plus d'être poétique, moi je trouve, permet à l'enfant d'exorciser sa peur et de se rassurer avec son parent. C'est le jeu que nous vous recommandons pour jouer avec votre enfant à partir de 3-4 ans.
Et on pourrait également conseiller la lecture du livre pour enfants « Va-t'en grand monstre vert » qui reste dans la même veine.
Carrément Maxime, on serait alors dans une ludomédiathèque et on aurait deux objets que l'on retrouverait côte à côte.
Thomas, tu entends cette musique ?
Ouais, j'en ai bien peur, Maxime. C'est le morceau que l'on avait choisi pour clôturer définitivement notre intervention sur cette radio.
Aïe, aïe.
Il y a plus d'un mois de cela, quand on travaillait à la réalisation de cette émission dans ton appartement.
On est en tout cas ravis d'avoir pu partager ces moments avec vous.
Oui, on espère que ça vous aura plu autant qu'à nous, et si c'est le cas, alors c'est que ça vous aura sacrément plu.
C'est clair, et il est temps pour nous de regagner notre ville de Bordeaux en vous conseillant de vous intéresser à cette belle activité qu'est le jeu.
Ouais, jouer partout, à tout type de jeu, jouer avec votre enfant, c'est important.
Et jouer avec vos amis, votre famille, partagez, échangez et servez-vous de ce média et de l'imaginaire qu'il transporte.
Avant de se quitter, on tenait à remercier une dernière fois Charles Jouteux ainsi que la radio Studio Zef pour l'excellente idée de nous permettre de venir ici pour vous faire partager tout cela.
Ainsi que la formation de l'IUT, et plus particulièrement Stéphanie Ruby, qui a monté ce projet et que nous n'avons pas eu grand mal à accepter.
Oui, remercions également les intervenants qui ont été passionnants à interviewer, Fanny Boucard de la boutique Je Barjo,
Nicolas Soubiès de la Muscafé,
Rodolphe Chambonneau de Food on the Game,
et enfin Yannick Battista, ludothécaire à Camblane, près de Bordeaux.
Bon, il est franchement temps de se quitter.
Jouez encore
et toujours.